L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans l'EM, l'émission quotidienne de Transistor. Ça démarre à midi jusqu'à 13h et c'est en rediffusion le soir même à 18h et aussi pour l'éternité sur Internet. C'est l'avant-dernier épisode de la série Un an dans la ruche. Nous avons décidé d'apporter un petit bonus à cette série. Alors pas un making-of, non, un épisode entièrement consacré à une personnalité au sein même de l'essaim, c'est la reine. Merci Julie Rionnier d'être encore avec nous, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Vous êtes animatrice environnementale à Biodivertisson et vous en êtes aussi la reine quelque part puisque vous en êtes la gérante. Et donc on va parler de votre homologue dans le règne animal. Comment ça va?
Ça va bien et vous?
Ben, ça va. Bon alors, quelles sont les caractéristiques physiques distinctives d'une abeille reine?
Alors la reine, elle est un peu plus grande, enfin même beaucoup plus grande que ses homologues, les ouvrières et les mâles. Elle a le corps qui est, alors elle a l'abdomen surtout, qui est beaucoup plus long, beaucoup plus en longueur que le mâle, qui est plus dodu, plus rond, et l'ouvrière qui est beaucoup plus fine et beaucoup plus petite.
Et au niveau des couleurs?
Alors, elle va avoir des caractéristiques, soit elle est vraiment très noire quand on parle de l'abeille noire, soit elle blondit en fonction, de la sous-espèce qu'elle représente. Mais elle est vraiment très, très reconnaissable parmi toutes.
Alors, quand on parle de l'abeille noire, on ne parle pas de l'abeille de Ouessant, parce que je crois que c'est une abeille qui est plus noire que toutes les autres. La reine des abeilles d'Ouessant, elle est encore plus noire, moins colorée que les autres, ouais.
Ah oui, complètement. Elle est vraiment très foncée. Alors, on voit toujours les petites stries sur son abdomen, vraiment des petits traits. Mais elle est vraiment très, très noire. Après, nous ici, en tout cas, moi, je travaille avec ce qu'on dit l'écotype local. Donc, c'est un mélange d'un peu tout. En fonction des essaims un peu plus sauvages et des autres apiculteurs qu'il y a autour. On va voir après comment ça fonctionne et comment se font ces mélanges, en fait. Mais oui, elle est vraiment, vraiment noire. Donc, c'est une descendance de l'abeille noire pure, en fait.
D'accord. Et elle a des ailes plus grandes, plus petites?
Alors, elle a des ailes, je crois qu'elle a des ailes un petit peu plus grandes, mais c'est proportionnel par rapport à son corps, en fait. Donc, plus grande par rapport aux ouvrières. Mais sinon, ça, elle garde les mêmes proportions.
Ouais. Une abeille en moyenne, ça mesure combien? Et donc du coup, la reine, elle est à quoi, à combien de fois plus grande?
Je dirais que l'ouvrière, elle mesure peut-être 5 mm, je pense, 5-6. Ouais, un petit peu plus, ouais, 5-6-7. La reine, elle peut aller, une belle reine, va quasiment jusqu'à 1 cm et quelques millimètres. Hein,
au moins deux fois, quoi. Donc elle peut vraiment bien la...
Oui,
vraiment bien la boire.
Quand on tombe dessus, on n'a aucun doute.
Alors,
vraiment.
J'imagine que la reine, on ne la trouve pas perdue dans l'essaim. Elle a un endroit bien spécifique, dans un essaim ou dans une ruche même. C'est où?
Alors en fait, ça dépend un peu du caractère de la colonie, mais en règle générale, elle est vraiment sur les cadres de couvains. Donc en train de pondre, elle prend pas soin des larves ou des œufs, elle pond. Son boulot, c'est de pondre. Donc, en règle générale, si on se souvient, on a une colonie dans une ruche qui est en forme de ballon, de boule. En règle générale, elle est quand même assez au milieu, mais on peut la retrouver sur les cadres de côté en fonction de la saison, en fonction de ce qui se passe dans la ruche. Mais en règle générale, elle est plutôt sur les cadres de couvain.
Alors, est-ce qu'elle agit exactement comme toutes les autres abeilles et faux-bourdons de la ruche? Est-ce qu'elle a un comportement vraiment spécifique?
Elle agit pas pareil. Elle a un comportement où elle est. Son boulot, c'est vraiment de pondre. Donc, elle est vraiment concentrée sur ça. C'est hyper flagrant quand on a la chance d'aller voir un apiscope. C'est les fameuses ruches pédagogiques avec du plexi, en fait. Et donc, on peut vraiment voir ce qui se passe. C'est un grand cadre commun et toute la vie de la colonie se passe sur un grand cadre et c'est bordé de plexiglas, donc on peut vraiment observer toutes les abeilles et vraiment en saison de ponte, elle passe d'une alvéole à une autre, elle met l'abdomen dedans, elle pond, c'est à la chaîne. Elle est vraiment très concentrée à ça. Il faut savoir qu'elle ne se nourrit pas toute seule, elle ne se lave pas toute seule. Elle a vraiment une cour autour d'elle qui fait ça pour elle. Donc elle est vraiment dédiée à sa tâche.
Okay, on en reparlera ça un petit peu tout à l'heure. Alors comment est-elle marquée pour faciliter son identification ?
Alors quand on a la chance de trouver la reine et de pouvoir, on a des espèces de petites cages avec la possibilité en fait, on pose là. Alors la reine adore monter, elle monte tout le temps. Sur un cadre, elle va plutôt aller vers la hauteur. Donc si on pose quelque chose sur le cadre pour essayer de l'attraper, donc un verre ou nous on a une espèce de petite cage, on la pose juste délicatement sur les alvéoles et la reine va monter dedans et quand elle a monté on referme, en fait on a une petite grille qu'on peut fermer et qu'on peut ouvrir en fonction de nos besoins, on peut refermer ça et après on a une espèce de piston en mousse que l'on peut monter à l'intérieur de la cage et essayer en fait quand elle se retourne de la coincer très délicatement contre une petite grille et de coincer en fait son dos vers nous. Et en fait, à la base de sa tête et de son thorax, elle a un endroit qui est un peu plus épais, vraiment comme une bille, comme si on pouvait mettre une pastille dessus. Et là, on prend un petit crayon ou on prend soit du Posca, soit il y a des vernis en fait spécifiques pour que le marquage tienne. On met un petit point de couleur, on laisse sécher quelques secondes et on remet dans la ruche.
D'accord. Et les abeilles, elles, comment elle la distingue des autres ?
Par l'odeur. En fait, la reine va unifier la colonie grâce à des phéromones qu'elle émet. C'est vraiment l'identité de la colonie grâce à ces odeurs-là.
Alors, est-ce qu'elle a un endroit qui lui est réservé, la reine? Je pense à quelque chose qu'on avait vu la dernière fois pour la ruche au printemps, si je me souviens bien. On parlait des cellules royales. Est-ce que c'est un endroit qui lui est dédié?
Alors, je ne sais pas si on peut dire dédié, en fait, c'est juste que quand l'œuf est pondu, l'œuf fécondé, du coup, pour faire une femelle, est pondu, l'œuf va être nourri par les ouvrières avec uniquement de la gelée royale. Et on a vu, donc, la reine a un cycle de développement très particulier. En fait, pendant 2 jours, ça reste, ou 3 jours, ça reste un œuf. On va mettre de la. Enfin, les ouvrières vont nourrir l'œuf avec de la gelée royale. Et l'œuf, quand il est prêt, en fait, il va commencer à devenir une larve. Et la larve, quand elle a assez de nourriture dans son alvéole, elle émet des phéromones aussi en disant c'est bon, j'ai assez de nourriture, vous pouvez fermer l'alvéole. Et donc, cet alvéole-là est fermé. Le fait que ça soit nourri qu'avec de la gelée royale, en continu, tous les œufs, toutes les larves, au début, sur les 3-4 premiers jours, sont tous nourris à la gelée royale. Ce qui va différencier la cellule choisie par les ouvrières pour faire une reine, c'est vrai qu'ils vont continuer à mettre de la gelée royale. Et du coup, cette cellule, au lieu de rester dans l'alvéole, elles vont construire en fait une cellule qui va être beaucoup plus longue et qui va aller vers le bas et qui va permettre à la reine de développer sa fameuse taille, puisque les abeilles naissent avec une taille adulte. Donc il faut que la cellule royale, elle soit suffisamment grande pour que la reine, la nymphe, puisse continuer de grandir et d'atteindre sa taille adulte pendant les 11 jours. Elle met 11 jours à se développer et au bout de 11 jours, elle naît.
D'accord. Alors comment ils choisissent justement les œufs ? Comment l'œuf qui va être mis dans cette hypercellule va être choisi ?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, l'œuf, il faut qu'il soit fécondé. Et la deuxième chose, c'est en fonction de la santé de la colonie, des besoins de la colonie et de la santé de la reine, ce sont les ouvrières qui vont, à un moment, dire « Ok, là, notre reine, elle n'est plus suffisamment efficace, ou elle est trop vieille, ou elle est malade, ou elle est blessée, peut-être aussi par faute de l'apiculteur, il faut qu'on en réélève une autre. » Et donc, c'est elles qui vont... Alors, comment exactement, ça, je ne sais pas, ça sera intéressant d'ailleurs de poser la question à un expert dessus. Comment est-ce que... Parce que, en fait, en fonction du besoin de la colonie et du danger de la colonie, Tu vas avoir des ouvrières qui vont soit faire des cellules, alors qu'il faut que je me souvienne du nom, soit des cellules de sauveté pour sauver la colonie, soit des cellules d'essaimage où là, tu as vraiment une reine, entre guillemets, en bonne santé, enfin, avec des bonnes conditions normales de développement qui va être faite. Et alors, il ne faut pas que je me trompe, je crois que les cellules de sauveté, les œufs sont principalement pondus sur les pourtours des cadres. Et quand les cellules sont plus au centre des cadres, là, c'est vraiment que c'est un renouvellement de la ruche voulue et donc une reconstruction de reine voulue. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas si je me trompe entre les deux, mais il me semble que c'est ça.
Comment ça se passe visuellement, une ponte ? C'est qu'on a la reine qui sort un œuf, un par un, c'est ça ? Et ensuite, ça se passe comment ?
Alors en fait, il faut savoir que la reine, quand elle fait son vol nuptial, donc elle sort de la ruche qu'une seule fois dans sa vie, donc elle naît. Et si les conditions météorologiques sont bonnes, elle va sortir de la ruche pour aller faire son vol nuptial et elle va être fécondée par une douzaine de mâles. C'est là où le mélange des espèces, si tu as des ruches, des écotypes locales, des noirs, des buckfasts, enfin plein d'abeilles différentes. Alors, a priori, il y a des zones qui sont vraiment dédiées au vol nuptial et à la reproduction. A priori, c'est assez rare à voir. En général, ça se passe sur 200-300 mètres au-dessus du sol. Tu as vraiment une zone où tu as la reine. Et en fait, la reine, quand elle vole pour son vol nuptial, elle a un vol très très rapide. Elle est vraiment très balèze. Et du coup, c'est vraiment les meilleurs mâles qui vont réussir à la féconder.
C'est comme ça qu'elle assure la diversité génétique.
Oui, exactement.
D'accord, ok. Et donc, elle vole très très vite, et donc c'est les meilleurs mâles qui la fécondent. Donc, alors, elle peut être fécondée jusqu'à combien de mâles ?
Jusqu'à une douzaine de mâles.
Okay.
En fait, elle a à l'intérieur...
Pendant juste un seul vol ?
Oui, pendant un seul vol. Alors, je ne sais pas combien de temps il dure, mais en règle générale, elle ne sort pas très longtemps de la ruche. Plus elle est dehors longtemps, plus c'est risqué pour elle, entre les oiseaux, les prédateurs, les conditions météo, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui peuvent jouer. Et en fait, à l'intérieur de son abdomen, elle a ce qu'on appelle une spermathèque. Donc, elle va stocker toutes les semences en fait, des différents mâles qui vont la féconder. Et de retour à la ruche, et d'ailleurs, c'est très drôle parce qu'en tant qu'apiculteur, par cycle de ponte, en fait, tu peux voir le cycle de ponte. Elle va pondre en fait, au milieu du cadre. Elle va pondre du milieu vers l'extérieur du cadre. Donc, forcément, les œufs, les individus du centre du cadre vont naître avant ceux qui sont à l'extérieur. Et donc, tu vois vraiment les cycles de naissance. Et en fonction des cycles de naissance, tu vas avoir plein d'abeilles hyper claires dans ta ruche ou plein d'abeilles plus foncées. Tu vois vraiment, en fonction de l'ordre dans lequel elle s'est fait féconder, tu vois vraiment les différents types d'abeilles. C'est très, très drôle à observer parce qu'un jour, tu ouvres ta ruche, tu n'as que des abeilles assez foncées. Et une semaine après, tu ouvres ta ruche et t'as que des petites blondes à l'intérieur, quoi. C'est assez drôle. Et en fait, elle, en fonction des besoins de la colonie, avec son lien en fait avec les ouvrières, où les ouvrières vont dire là, c'est la saison de reproduction des abeilles avec un grand A de l'espèce. Donc il faut faire du mâle parce qu'il faut qu'il y ait du mâle de disponible pour les vols nuptiaux. Donc là, on va faire beaucoup de mâles.
Elle peut vraiment choisir ?
Oui, elle va choisir de pondre un œuf fécondé ou non.
Ah ouais ?
Ouais.
Ça, c'est fandard.
C'est extraordinaire.
Et alors, quand elle pond, elle bouge pas et c'est d'autres abeilles qui sont chargées de répartir les œufs dans les couvains ou c'est elle qui va se positionner ?
C'est elle qui se positionne. C'est vraiment drôle parce que tu la vois quand t'as une reine qui est en forme, enfin qui fait bien les choses entre guillemets, elle va vraiment passer d'alvéole. T'as vu les alvéoles, elles sont très très serrées les unes avec les autres.
Et puis c'est tout petit ça. Ça fait combien une alvéole déjà ?
Je sais pas, faudrait que je te vérifie là. C'est vraiment, tu dois être à 4 mm. Mon mari saurait te dire exactement la taille. Mais du coup, elle va vraiment aller d'alvéole en alvéole. Elle met son abdomen dedans, elle pond à côté. Elle met l'abdomen, elle pond. C'est extraordinaire à voir. Elle rentre, parce que c'est quand même assez profond à l'échelle d'une abeille, elle rentre vraiment tout son abdomen qui est quand même long comme ça, tu vois. Longue de 5 mm environ.
D'accord.
Donc c'est vraiment du alvéole après alvéole.
Alors elle pose l'œuf, et ensuite c'est d'autres abeilles qui viennent déposer la gelée royale.
Exactement, oui. Les fameuses nourrices.
Les fameuses nourrices. Alors, si je me souviens bien, les abeilles, elles ont un job en fonction de leur âge.
Ouais, c'est ça.
Et alors, les nourricières, c'est à quel moment ? C'est les toutes premières abeilles ? Enfin, c'est dans quelle période de leur vie ?
Alors, en fait, c'est assez fascinant à parcourir quand on a les descriptifs. C'est hyper logique. Une abeille naît. La première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va nettoyer son alvéole, l'alvéole dans laquelle elle est née. Donc ça, c'est son premier métier. Elle est nettoyeuse. Et ça va jusque de son premier jour. Et en fonction des besoins de la ruche, ça peut s'étendre. En tout cas, elles vont avoir des rôles de nettoyeuse un peu tout le temps. Mais là, en fait, elle va juste, c'est très logique, elle sort de son alvéole, elle nettoie son alvéole et elle va aller explorer tout ce qu'il y a au plus près de son alvéole. Du coup, ce qu'il y a au plus près de son alvéole, ce sont les autres œufs ou les autres larves qui sont en cours de grandissement, on va dire. Et donc, elle va devenir nourrice à ce moment-là. Et en fait, elle va sécréter, parce que la gelée royale, c'est une glande qu'elles ont et qu'elles sécrètent, en fait, les abeilles qui vont aller butiner à l'extérieur, vont ramener du nectar, du pollen. Et en fait, tu vas avoir des magasinières qui vont être chargées d'aller chercher... En fait, elles se nourrissent par trophylaxie, les abeilles.
C'est-à-dire un échange
de
bouche à bouche, en gros.
Oui, c'est ça. En fait, elles ont une poche avant l'estomac qui leur permet de stocker. Ça va déjà être prédigéré. Et au lieu que ça descende vraiment dans l'estomac pour les nourrir, elles vont régurgiter ça dans la bouche d'une autre abeille qui va faire la même chose. Et c'est ce passage-là qui amène ces nutriments tellement extraordinaires au miel, notamment. Et donc, au fur et à mesure, tu as vraiment une chaîne d'abeilles. Et ça va être mis jusque dans les cellules, soit pour stocker, soit pour nourrir les larves.
Alors, c'est la seule façon de récupérer de la gelée royale pour les apiculteurs, c'est dans les cellules.
Exactement, oui.
Alors, comment on la distingue du miel ?
Alors, la gelée royale, elle est vraiment... C'est comme un gel blanc.
Ah, c'est blanc ?
Ouais, c'est très très clair, c'est blanc. Alors, on a... Je crois qu'il y a une apicultrice à Plébin qui est spécialisée dans la gelée royale. Et ouais, c'est vraiment un gel, ce qu'on nous vend en pharmacie de la gelée royale, c'est vraiment comme ça, en fait.
Je ne savais pas du tout.
Faudrait que je te montre des photos, effectivement. C'est très reconnaissable. Et c'est d'ailleurs très drôle, en fait, quand, en tant qu'apiculteur, tu essayes de calmer la fameuse fièvre d'essaimage au printemps pour que ta ruche, elle grossisse au lieu de se disperser. Parce que tu sais, quand elle essaime, elle se divise en deux. Donc, si tu as un essaimage, c'est divisé en deux. Un deuxième, c'est comme si ta première était divisée en quatre, ainsi de suite. Donc, plus ta ruche, elle est petite... Enfin, ton essaim est petit, plus il va avoir du mal à survivre. Donc, quelquefois, tu es obligé, en fonction des souches, en tant qu'apiculteur, d'essayer de contrôler tout ça. Et donc, tu fais vulgairement les cellules de reine. Tu vas regarder où sont les cellules de reine et tu vas les détruire au fur et à mesure pour essayer de contrôler un peu. Et dans certaines cellules de reine qui sont prêtes et où tu as vraiment une reine qui est en train de grandir à l'intérieur, quand tu casses la cellule, tu as vraiment de la gelée royale avec ton œuf au milieu, quoi.
Et en termes de proportion, on va dire, si une ruche produit 1 litre de miel, elle produit combien de gelée royale ? On ne sait pas.
Aucune idée, ouais.
C'est aléatoire ? Ça peut être aléatoire ?
Je ne sais pas, peut-être.
Ouais.
Ouais, peut-être. Bah, en tout cas, tu peux te dire que tous les œufs de la reine qui sont pondus sont les premiers jours nourris à la gelée royale. Donc, quand tu as une ruche sur 10 cadres, en général, en pleine saison, tu as quand même quasiment 8 cadres remplis de couvains, enfin de pontes. Ça fait, à l'échelle d'une abeille, ça fait une bonne quantité, je pense, hein, quand même.
Alors, la reine, elle sort qu'une seule fois pour pouvoir remplir sa spermathèque. Elle va pondre, donc, du coup, toute sa vie.
Oui, tout à fait.
Et après, elle va mourir.
Alors, elle va mourir. Souvent, c'est aussi de ça que vient l'essaimage. C'est soit elle meurt ou elle tombe malade ou elle ne peut plus pondre. Et là, ça peut être très dangereux pour la colonie si la colonie n'a pas compris ce qui se passait. Et tu peux avoir des ouvrières qui du coup, vont se mettre à pondre, mais des œufs pas fécondés, puisqu'elles n'ont pas été... n'ont pas été prévus pour ça. Et donc là, c'est, on dit, ta ruche, elle devient bourdonneuse. Donc, tu n'as plus du tout d'ouvrières. Tu n'as que des mâles qui vont naître. Et les mâles, ils ne se nourrissent pas tout seuls. Ils n'ont pas de fonction d'aider à faire survivre la colonie par rapport aux ressources, récupérer des ressources. Donc là, tu vas avoir ta colonie qui va mourir, en fait, naturellement. Et la reine, sinon, elle va juste s'arrêter de pondre, ou alors elle n'est plus suffisamment efficace. Et c'est là que l'essaimage peut être déclenché, où les ouvrières vont dire, bah voilà, là, notre reine actuelle, elle ne pond pas assez pour la survie de la colonie. Du coup, on va en rélever une, et quand la nouvelle va naître, l'autre va partir avec la moitié de la ruche.
C'est quoi sa durée de vie?
Alors, sa durée de vie, on va dire naturelle, a priori, ça serait 7-8 ans, avec a priori un déclin quand même au niveau de l'efficacité de ponte, ce qui est logique, hein, parce que la spermathèque, au bout d'un moment, elle se vide. Après, il y a plusieurs choses quand on parle d'apiculture, donc on parle de culture des abeilles. Donc la culture des abeilles, c'est pour produire des reines, des colonies, ça peut être pour produire du miel, ça peut être pour produire de la gelée royale, de la propolis, etc. Voilà, t'as plein de biais. Et pour garder cette efficacité-là, on dit qu'il faut changer sa reine tous les 2 ou les 3 ans.
C'est quand même assez fou de se dire qu'elle va voler une seule fois et pondre pendant 8 ans. Mais est-ce qu'elle pond 365 jours par an ?
Non, elle va pondre, en fait, c'est assez logique, elle va pondre pour que la population s'adapte aux ressources qu'il y a à l'extérieur. Donc, effectivement, en hiver, elle ne va pas pondre. Ou, sauf dans les pays chauds ou des climats un peu plus doux où elle va jamais réellement s'arrêter, mais en tout cas elle va ralentir parce que dehors tu auras pas de ressources, donc elle va pas produire des individus s'ils sont voués à mourir parce qu'il y a pas de quoi les nourrir. C'est vraiment une adaptation constante.
Alors si son rôle c'est de pondre les œufs, c'est quoi son rôle quand elle fait rien en fait, quand elle pond pas d'œufs?
Elle garde l'intégrité de la colonie. C'est-à-dire avec elle va garder, en fait, c'est vraiment la balise de la maison est là.
D'accord. Alors, elle pond, et sa fréquence, du coup, c'est quoi de ponte?
C'est tout le temps en période, là, par exemple, en ce moment, depuis février, mars, elle ne fait qu'augmenter. Je ne sais plus combien d'œufs, je crois que c'est 3000 œufs en pleine saison par jour qu'elle peut pondre. Donc c'est assez énorme. Oui, et c'est là où le rôle de l'apiculteur est assez crucial, c'est que elle pond. Maintenant, si tu n'as pas suffisamment de place, ça peut aussi être une cause de d'essaimage. L'habitat n'est plus adapté à la colonie, on s'en va. Et donc ton rôle, c'est, parce qu'en général quand elle pond, c'est les moments où tu as le plus de ressources à l'extérieur. Donc elles, les ouvrières, leur but, c'est de faire rentrer de la ressource pour nourrir la population. Donc il faut toujours avoir l'équilibre entre je donne suffisamment de place à la reine pour qu'elle puisse continuer de pondre et que la population continue de tourner de génération en génération, de tous les âges. Et il faut que je donne suffisamment de place aux ouvrières pour qu'elles puissent stocker les ressources et les stocks et le surplus. Ce sont les fameuses hausses.
D'accord. Alors la reine, c'est vraiment son travail, c'est à l'intérieur, elle sort jamais, elle peut donc pas se nourrir toute seule.
Non.
Qui s'en occupe?
Alors on dit qu'il y a une espèce de garde rapprochée, 5-6 abeilles, et c'est assez flagrant quand on ouvre la ruche, souvent tu vois en fait une forme d'étoile, t'as la reine au milieu, et puis t'as 5-6 abeilles tout autour d'elle, en train soit avec leur mandibule de la nettoyer, soit vraiment du bouche à bouche, en train de la nourrir.
Alors, ces gardes-là, eux, ils sortent pour aller chercher de la nourriture pour l'amener à la reine, ou alors c'est encore une fois un système de transmission
C'est un système de transmission. Cette cour-là, elle tourne en fonction de l'âge des abeilles. T'as un mélange d'âge d'abeilles, en fait, mais elles sont leur rôle, c'est de prendre soin de la reine, donc elles vont pas sortir pendant ce moment-là. Et en fait, ça tourne en fonction des générations de la colonie. Et donc, c'est les manutentionnaires, les butineuses, c'est le travail de tout le monde qui fait que ces abeilles-là, elles vont être dans un stade où elles ne vont pas avoir la nourriture brute, mais justement digérer pour apporter encore plus de nutriments, d'oligo-éléments, de vitamines à la reine.
Alors, on a parlé un petit peu de communication tout à l'heure. On va essayer de rentrer encore un peu plus sur cet axe-là. Est-ce qu'elle a un rôle Quel rôle a la reine dans la communication? Est-ce que tout se fait instinctivement, entre guillemets, ou alors elle donne vraiment des ordres? Et surtout, si elle en donne, comment?
Alors, a priori, elle ne donne pas d'ordre. Elle a vraiment, par ses phéromones, elle a vraiment le rôle d'unifier la colonie autour d'elle. En tout cas, de donner le pieu de rassemblement et l'identité de la ruche, puisque d'une ruche à une autre, si tu as des abeilles qui s'égarent, y a de grandes chances que si elles rentrent dans la mauvaise ruche, elles se fassent tuer. Parce qu'elles n'ont pas la bonne odeur. Elles n'appartiennent pas à la maison. Et donc ça, c'est vraiment son rôle principal. Après, elle a un autre moyen de communication qui est visible et qui est assez rare à entendre au tout début de sa vie. Juste avant en fait qu'elle sorte de sa cellule royale, donc t'en as qui peuvent faire quasiment 2 cm de longueur, donc vers le bas. Et en règle générale, c'est assez rare que ta colonie fasse une seule reine. Elles vont essayer d'en élever 1, 2, 3 pour que la meilleure en fait prenne la place de la reine. Et en fait, juste avant de sortir de son alvéole, elles sont à peu près élevées en même temps. Donc, a priori, elles vont sortir quasiment en même temps. Elle va émettre ce qu'on appelle le chant de la reine. C'est un petit bruit assez strident, une vibration, pour un peu décontenancer les autres reines en disant « Attention, les filles, j'arrive, quoi !» Et c'est la première qui naît qui va aller... En fait, la reine, elle sort par le bas de son alvéole. Elle va grignoter en fait l'écaille du bas que les ouvrières ont mise pour fermer la cellule. Et les reines, donc, elle grandit en longueur. La reine qui va sortir la première, elle va aller piquer la cellule royale encore fermée de sa...
De sa concurrente,
merci, j'avais pas le mot. Elle la pique, et du coup, elle pique sur le côté. Donc, c'est hyper flagrant, toi, en tant qu'apiculteur, quand tu vois ton cadre avec les cellules royales, si elle est ouverte par le bas, a priori, tu as une reine qui se balade, soit qui est en cours de vol nuptial, soit qui est encore vierge et qui va pas tarder à aller se faire féconder. Soit ta cellule, elle est percée par le côté, et donc tu sais que tu as une reine qui en a tué une autre.
Ok, donc là, c'est la mort assurée.
Ah oui, en fait, contrairement aux ouvrières qui ont des dards harponnés, donc c'est pour ça que quand une abeille nous pique, elle meurt, parce que donc le dard reste enfoncé dans notre peau, mais en fait le dard à l'intérieur de son abdomen est accroché à tout son système digestif. Donc quand elle se retire, quand elle veut voler, décoller de notre peau après qu'elle nous ait piqué, il y a tout qui reste, il y a tout qui vient avec en fait. Alors que la reine a un dard lisse, donc elle peut piquer autant de fois qu'elle veut, ce qui est logique puisqu'elle doit se défendre, c'est la meilleure de toutes qui doit prendre la place de la reine et diriger la colonie.
Okay, d'accord, c'est assez brutal quand même, hein, elle rigole pas la reine. Hein.
Ah bah, c'est un sacré rôle. Hein.
C'est un sacré rôle, oui. Alors on parlait un petit peu de décémage tout à l'heure. Est-ce que la reine a un comportement spécifique à ce moment-là?
Alors oui, alors je sais pas si c'est la reine, c'est plutôt du coup les ouvrières pour préparer l'essaimage. Donc l'essaimage, c'est à la moitié de la ruche qui part avec l'ancienne reine à l'extérieur pour permettre à la nouvelle reine de prendre ses quartiers, en gros. Et donc juste avant, et ça on peut le voir nous en tant qu'apiculteurs, si on voit que les ressources ont diminué énormément dans la ruche, qu'on a toujours le même type de population et que la reine est beaucoup plus fine, parce que du coup, toutes les ouvrières qui vont partir, je ne sais pas comment ça se décide ça d'ailleurs, qui part avec qui, toutes les ouvrières.
Pour un vote.
Ouais, je sais pas. Toutes les ouvrières qui vont partir avec l'ancienne reine vont se gorger de nourriture. C'est pour ça que du coup on voit le stock de nourriture qui baisse énormément. La reine, elles vont arrêter de nourrir la reine pour que la reine soit plus légère et puisse voler. Parce que quand sa spermathèque est pleine et qu'elle est nourrie, elle peut pas voler. Toi, tu peux la faire tomber en ouvrant un cadre, tu peux la faire tomber au sol. En général, quand elle tombe de la rue, si tu fais pas gaffe, elle tombe au sol, elle ne vole pas. Et c'est là où, quelquefois, quand tu arrives à des périodes un peu cruciales où tu vois des signes d'essaimage, mais tu n'es pas très sûr, tu ouvres ta ruche, tu fais pas gaffe, ta reine s'envole. Là, voilà. C'est la surprise. Et sinon, oui, en fait, elle part vraiment... C'est vraiment un signe très très flagrant. T'as ta reine qui maigrit énormément et toutes tes abeilles qui sont un petit peu plus nerveuses aussi. Et ton stock de nourriture qui baisse, ça va essaimer. Et que tu sais que t'as plusieurs jours de beau temps à venir, ça va essaimer. Et après, tu peux arriver après coup, où là, t'ouvres ta ruche. T'avais une ruche qui était très très avec une population très abondante. Ta reine était marquée. Donc a priori, tu la vois. Là, tu vois plus la reine, ta population, tu la vois vraiment très diminuée et t'as quasiment plus de ressources dans ta ruche. Elle a essaimé.
Quels sont les défis que doit relever une reine au fil des saisons ?
Une bonne question. Au fil des saisons, je dirais continuer de pondre régulièrement. Je dirais continuer de pondre régulièrement pour que la colonie, en fait, elle se développe de manière homogène et continuelle. Mais ça, c'est surtout lié dans les ruches, ça va être lié au travail de l'apiculteur. Surtout, je trouve.
Alors justement, c'est quoi ? C'est quoi les attentions spécifiques à la reine par l'apiculteur ?
C'est d'essayer à chaque fois qu'on ouvre la ruche de la voir.
Et puis pas d'ouvrir la ruche quand il y a trop de delta au niveau de température.
Ouais, c'est ça. Pas trop de delta de température, pas de vent, pas de pluie, pas d'orage, pas de temps orageux.
Parce qu'on sait que ça les énerve.
Ça les énerve énormément. Donc nous ici, on a du bon. C'est un challenge chaque semaine, mais c'est super intéressant. Effectivement, voir la reine ou pas. Si on voit la reine, on est bien. On regarde un, deux cadres au centre. S'il y a de la ponte, on referme, on les laisse tranquilles. On vérifie juste en fonction de la taille de la colonie. Est-ce que sur le haut des cadres et les cadres de rive, il y a suffisamment de nourriture ou pas? Si on a des hausses, on vérifie que les hausses soient bien prises en charge. Si elles ne le sont pas, alors que la dernière fois qu'on a ouvert la ruche, elle était suffisamment forte, il faut peut-être aller voir dans le corps. Si on voit que la hausse elle est bien prise en charge, que ça bosse dedans, on n'embête pas le bas. A priori, tout va bien. Sauf cas particulier, en voyant la porte d'entrée, si on voit des comportements bizarres, si on ne voit pas d'abeilles ou si on voit plein d'abeilles rentrer avec plein de pollen, a priori tout va bien. Et une fois qu'on ouvre la ruche, donc si on ne voit pas la reine, donc il faut partir à la recherche d'indices qui nous montrent qu'il y a encore une reine, c'est juste qu'on la voit pas parce que la population en ce moment est assez, assez importante, donc ce n'est pas forcément évident. Et donc on va regarder, est-ce qu'on voit du couvain? Si on voit du couvain, est-ce qu'il est operculé ou pas? Donc est-ce qu'il est fermé ou pas? Et on parlait des cycles de ponte tout à l'heure, elle pond du milieu vers l'extérieur. Et donc le but c'est de poser son regard en allant vers l'extérieur du cadre. Et normalement, si au milieu c'est operculé, plus tu vas t'éloigner, tu vas commencer par voir des larves et après tu vas voir des œufs. Si tu vois des œufs, c'est que tu as une reine qui est là depuis moins de 3 jours, donc a priori t'es pas mal.
Est-ce que l'apiculteur peut apporter une nouvelle reine ?
Oui, tout à fait. Tu peux avoir les apiculteurs professionnels, c'est ce qu'ils peuvent être amenés à faire pour garder une efficacité, entre guillemets, du rucher, de production. Il suffit juste de vérifier que, un, tu n'as pas de cellule royale, donc tu as ta colonie qui n'est pas en train déjà de refaire une reine, que tu n'aurais peut-être pas voulu en termes de... on parle en termes de gestion, de cheptel. Si tu n'as pas de cellules royales, et là, il faut faire attention hein, parce qu'elles peuvent être... Elles sont balèzes hein, pour les faire. Faut vraiment bien avoir l'œil. Il suffit que tu en loupes une de cellules royales. Et si tu introduis une nouvelle reine, donc en général, tu l'introduis dans une petite cage avec quelques abeilles accompagnatrices. Et tu fermes la cage, en fait, avec un espèce de sucre, une pâte de sucre qu'on appelle du candy, qui est du coup assez, assez malléable. Et ça permet de, quand tu, en fait, tu poses la cage entre deux cadres, donc elle est vraiment tenue, et le temps en fait, qu'elle mange le sucre, elle va pouvoir dégager ses phéromones, et les abeilles de la ruche vont s'habituer, l'accepter ou non, ça peut arriver qu'elle ne soit pas acceptée, au sein de la colonie. Et donc, à partir du moment où elle va avoir mangé le sucre, normalement, elle est acceptée.
Alors, si elle n'est pas acceptée, c'est bagarre générale ?
Il la tue, tout simplement. Et elle est tuée.
Et c'est, si jamais on loupe la reine et qu'on en introduit une autre, j'imagine que c'est pareil.
Ouais, c'est pareil. A priori, c'est la reine actuelle qui va aller tuer la nouvelle, qui est en plus dans une cage qui est toute petite, hein, donc elle peut piquer à travers. Hein, donc,
ouais, mais c'est possible que si on introduit une reine sans voir qu'il y en avait une autre, que ce soit la nouvelle reine, justement, qui prenne la place de l'autre.
Quoi. Probablement, mais comme elle n'a pas l'opportunité de s'échapper pendant cette période-là, elle est vraiment dans sa cage. Donc, a priori, tu as quand même plus de risques que la reine actuelle tue la nouvelle que tu essayes d'introduire.
Mais alors, elle se bat où ? Comment elles se battent ?
Elles se piquent. À travers la cage. Ah oui.
Il
n'y
a pas beaucoup de place dedans.
Oh bah, à leur échelle, si, pas mal.
Ouais.
Ouais.
Bah, merci beaucoup, Julie.
Avec plaisir, David.